On reprend l'antenne pour la troisième fois ce matin. Donc, je suis Stéphane Croza en studio à présent avec Ahmed Bouzidi, avec Juliette Césari, Laurana Glodex, Victor Guérin, Margot Lenné, Brian Migueux et Uxy. Vous êtes tous les sept membres du groupe Can Alternatif, un groupe, donc un des neuf groupes qui a écrit des récits courts dans le cadre du genre Solar Punk depuis cinq jours maintenant à l'Université de Technologie de Compiègne. Eh bien, bonjour d'abord à tous les sept.
Bonjour.
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 Alors, on va vous écouter dans quelques instants lire des extraits de vos récits. Hein. Donc, vous avez été encadré assidûment par Mathis Leroy et Vincent Robin pour cette réalisation. Je suis également en studio, je les salue à nouveau, avec Alexandre Brandy et Yann Kervran. Voilà, ils vous saluent avec les mains parce qu'on n'a pas assez de micros. Donc Yann et Alexandre sont tous les deux des écrivains et vous pourrez retrouver leurs livres en librairie si vous le souhaitez. Ils nous ont assisté là tout au long de ces cinq jours. Ont assisté les étudiants dans le cadre de leurs travaux d'écriture. Alors le Solar Punk, eh bien on va le découvrir dans pas longtemps, mais donc c'est un genre littéraire qui a pour objectif de dessiner des futurs désirables, un petit peu d'autres imaginaires techniques, d'autres voies que celles que l'on emprunte actuellement, peut-être plus en phase avec les enjeux socio-écologiques. Donc pour cette session, je l'ai déjà dit, donc on va avoir le canal alternatif et puis peut-être qu'on va démarrer. En fait, c'est bon pour toi, hein ?
Ouais, c'est bon.
Allez, c'est parti.
Donc moi, je vais vous présenter ma nouvelle qui s'appelle « L'histoire d'une lutte et d'une amitié ». Et en fait, ça commence sur un dialogue entre deux amis qui sont la bergeronnette et Morgane. Et la bergeronnette annonce à Morgane qu'elle va partir pour un autre projet. Donc Morgane est assez triste. Et ensuite, ça va sur un retour en arrière pour raconter leur histoire de leur amitié, comment elles se sont rencontrées, et notamment à travers une lutte. Et donc c'est à partir de là que je vais vous lire mon extrait. Donc... Ces deux-là s'étaient rencontrés lors de la première occupation autour de la lutte contre un méga-canal. Le jardin de Bernard, habitant proche du tracé de ce canal à Ribécourt, allait être coupé en deux pour construire ce méga-projet. Loin d'être le seul concerné par les destructions, Bernard avait pourtant été le premier à contacter des activistes afin qu'ils puissent défendre ces arbres majestueux. Les deux saules, le frêne et le peuplier de Bernard avaient été aménagés pour s'y installer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Morgane avait une longue expérience militante et avait entendu parler de ce projet dès 2024. Après la fin d'une lutte dans le sud-ouest de la France, Yael était montée dans le nord pour participer au sauvetage des arbres. Une dizaine d'activistes vivaient à cet endroit en autogestion. Des cabanes avaient été construites, l'organisation des tâches était bien structurée et des assemblées générales avaient lieu tous les jours. Le jardin de Bernard était devenu un lieu d'expérimentation de modes de vie alternatifs. On l'appela la Crozade. Il y eut également un énorme soutien de la population locale qui fournissait nourriture, eau et toutes sortes de matériel nécessaire. La bergeronnette était, elle, une habitante née sur le territoire. Elle connaissait le projet depuis toute petite, mais ne provenait pas d'un monde militant. Tellement attachée au paysage de son enfance, elle décida de s'affranchir de son projet de vie conventionnel pour s'engager dans la préservation des lieux qui lui étaient chers. Elle rejoignit la Crozade quelques mois après son lancement. La répression devenait de plus en plus forte. La lutte, médiatisée au niveau national, devint une cible principale des forces de l'ordre. Devant l'importante portée politique du projet, les capitalistes tenaient à mettre en place rapidement le méga-canal. Les interventions en zone occupée furent nombreuses. Toutes les méthodes étaient employées pour couper les activistes dans leur élan. Gaz lacrymogène, violence physique, mais aussi surveillance massive, manipulation et création de conflits internes.
Donc, après cette histoire que... vous a raconté, vous avez lu Margot. On passe à une seconde histoire, celle de Yanis. Ça se passe à Longueuil-Annel, un peu plus au sud de la Crozade. Cela fait bientôt 10 jours que Yanis n'a pas vu sa grand-mère. Avant de lui rendre visite, et il compte à y cueillir des cerises. Ça lui fera sûrement plaisir, se dit-il. Alors qu'il longe le canal en direction des vergers, Yanis se perd dans ses pensées. Ce mois de juin lui rappelle étrangement la grande sécheresse et fait ressurgir des souvenirs douloureux. Quatre ans auparavant, la ville avait connu des vagues de chaleur comme on n'avait jamais vu, et des épisodes de sécheresse extrême. Les cultures étaient asséchées, les habitantes et habitants affamés. Pour y faire face, il fut décidé de prélever l'eau directement dans le canal et d'aménager des jardins partagés dans toute la ville. Soudain, un bruit de moteur tire le jeune homme de ses pensées. Au loin, une péniche tout à fait remarquable. Du rose en passant par le jaune, le vert et le bleu, le tout orné de motifs en tout genre. C'était un paysage tout entier qui semblait se rapprocher. Intrigué, il décide de détourner légèrement son itinéraire de départ et de passer par le port, avec l'espoir que le bateau s'y arrêtera. Par chance, l'embarcation semble se diriger vers eux, et cette impression se confirme lorsqu'une jeune femme, tout sourire, sort du poste de pilotage pour leur faire de grands signes. La nomade, pouvait-on lire sur la partie gauche de la coque. Une fois son bateau amarré, la navigatrice descend à quai et s'adresse à la foule qui s'est attroupée pour la voir arriver. La jeune femme, aux cheveux roux, se tient droite et parle d'un ton assuré. Sophie, c'est ainsi qu'elle s'appelle, explique venir de loin et faire escale à Longueuil-Annel pour la journée, ses stocks de nourriture arrivant à leur fin. Elle repartira ensuite pour le Plaude, où elle compte retrouver une amie. Yanis, relégué au dernier rang, ne comprend pas tout ce qui se dit. Il voit bien que des mots sortent de la bouche de Sophie, mais aucun son ne lui parvient. Il reste là, figé, à contempler la jeune femme sans pouvoir s'en détacher. Quelques taches de rousseur discrètes illuminent son visage, comme autant d'étoiles qui, vieillies par l'âge, auraient perdu de leur lueur. Sophie est une sorte de nébuleuse, rayonnante mais mystérieuse. Soudain, la foule qui s'était réunie autour de Sophie se met en mouvement, et un petit convoi se crée en direction de la ville. Yanis, qui se joint à eux, sans réfléchir, a oublié les cerises. Ce sera pour une prochaine fois.
Eh bien, désormais, Ahmed et moi-même, Uxy, on va vous raconter l'histoire du canal pêche.
Excusez-moi, que se passe-t-il ici ?
Ici ? C'est la 4e édition du canal pêche. Tu n'es pas du coin, toi ?
Non, je viens d'arriver.
Eh bien, nous organisons ce concours où les participants utilisent des aimants pour pêcher des objets dans le canal. L'objectif, c'est de trouver les objets les plus intéressants ou les plus insolites. Autant te dire que l'ancien régime nous en a mis pas mal des merdes dans le canal. Et du coup, on les utilise ensuite pour construire des sculptures, des machines, des inventions. Et la victoire, elle est décernée à l'œuvre la plus créative.
C'est incroyable! Et que gagne le vainqueur?
Cette année, la plus belle œuvre sera exposée dans le grand hall de l'Upload.
Je dois justement rejoindre une amie qui étudie là-bas. Je dois essayer ça à tout prix. Où est-ce que je pourrais m'inscrire?
Eh bien, tu es arrivé juste à temps. Les inscriptions se font là-bas, sous la tente bleue. Le lendemain, elle fut réveillée par des cris et des engueulades. En rejoignant le festival, elle trouva tous les bacs de la récolte de la veille sans dessus-dessous. Avec l'agitation collective des participants, elle comprit vite, des vols ont eu lieu pendant la nuit. Sophie s'approcha du groupe de participants rassemblés autour des bacs. Les voix s'élevaient de plus en plus fort. C'est dingue! J'avais récupéré un moteur de tondeuse quasi fonctionnel! Qui a bien pu faire ça?
Moi, c'est pareil. Mes tubes en cuivre et mes rouages ont disparu.
Un jeune organisateur, présent à ce moment-là, visiblement dépassé par la situation, ne savait pas comment gérer. C'était une première. La récompense de cette année avait sûrement donné envie à certains participants de gagner à tout prix. Les épreuves de la journée furent donc annulées pour trouver une solution. L'ambiance du championnat avait pris une toute autre tournure.
On doit arrêter la compétition. C'est injuste pour ceux qui se sont fait voler. On n'arrivera jamais à récupérer assez de matériaux pour demain.
Ah non, on continue. J'ai passé toute la journée d'hier à me casser le dos à récolter des objets dans ce putain de canal. C'est pas pour que tout soit annulé aujourd'hui. Moi, j'ai ce concours en tête depuis la dernière édition qui m'est passé sous le nez. Hein.
Stop ! Arrêtons de nous embrouiller. Ne répondons pas à l'individualité et l'égoïsme de certaines personnes par les mêmes méthodes.
Ouais, mais bon, moi, je pourrais plus faire mon chien métallique. J'ai plus d'écrous pour les yeux, j'ai plus de chaîne pour la queue. Comment je vais faire ?
J'en ai en trop, si tu veux, des écrous.
Et moi, il me reste une chaîne. Je peux plus faire grand-chose avec, de toute façon. Je te la donne avec plaisir.
Oui, voilà. Et si nous partagions tout ? Que ce soit nos objets récoltés ou le prix, qu'est-ce qui nous empêche de tout partager ? Pourquoi ne mettrions pas toutes nos trouvailles d'hier en commun ?
La nouvelle a raison. En vrai, on s'en fout du prix et des récoltes. On fait ce concours avant tout pour le plaisir de se retrouver et pour libérer notre créativité dans ce monde insalubre laissé par l'ancien régime totalitaire.
Peut-être que ces vols sont une chance de nous montrer que ce concours n'a plus sa place dans ce format. Il nous oppose de manière inégale, avec des tailles d'aimants différentes, crée des tensions et des mesquineries de certains afin d'arriver à leur fin.
Et en plus, l'objet exposé à l'upload, bah, ça deviendrait tout simplement une exposition de toutes nos œuvres.
Les règles furent remodelées, mais n'avaient plus grande importance au final. Après tout, ils en avaient assez soupé des règlements pendant l'Ancien Régime.
Peu après ces événements, dans un village au bord du Médecin-Canal, se déroule un festival auquel s'intéresse cette nouvelle, intitulée « La fête de l'arbre fruitier ». Aussi dur de la feuille qu'il puisse être, le cerisier était certain de ne pas entendre le moindre moteur à l'horizon. Haut dans le ciel, le soleil diffusait lumière et chaleur parmi son feuillage. La sève pulsait vigoureusement le long de son tronc. Imprégné de l'atmosphère rayonnante de cet après-midi d'été, l'arbre se sentait bien. Il se régalait de toute cette lumière et buvait goulûment les eaux fraîches des profondeurs. La fin d'après-midi lui permit de relâcher ses efforts. Heureux, il s'étira dans son écorce pour se délasser. Autour de lui fourmillaient humaines et humains. Ses racines frémissaient sous leurs pas, plus légers qu'à l'accoutumée, mais aussi plus nombreux et empreints d'une sorte de fébrilité. Il les sentit tresser des guirlandes de cellules photovoltaïques illuminescentes entre ses branches, et les oiseaux prirent peur devant les éclats de lumière qu'elles projetaient. Bien vite, les préparatifs furent achevés, et toutes et tous se rassemblèrent au pied du cerisier. Leur poids exerçait une pression agréable sur ses racines, et il s'empressa de rassurer les champignons. Il n'avait aucune raison de craindre cet appui soudain. L'arbre se souvenait. Le même balai s'était déjà déroulé, 4 saisons auparavant, cycle pour cycle, jour pour jour. Le soleil n'était pas encore tout à fait couché lorsque l'on entama les chants, qui résonnèrent jusque dans l'air tiède de la nuit. Tous les fruits du cerisier frémirent à l'entente de ces sons familiers, ces vrombissements qui rappelaient les abeilles, bourdons et butineurs printaniers. Chants et danses s'accordaient au son d'étranges instruments bigarrés. Une vieille panne, qui dans sa jeunesse avait connu la vie avant l'effondrement, annonça fièrement y reconnaître un hautbois fait d'anciennes canalisations et une drôle de lyre aux sonorités métalliques. Cette description n'évoqua rien au cerisier, aussi se contenta-t-il de hocher la cime silencieusement. L'agitation et la lumière perturbaient les oiseaux nocturnes qui ne savaient plus où donner de leur tête plumée. L'arbre n'aimait pas que l'on dérange les rapaces, mais il devait bien reconnaître que les célébrations humaines étaient plaisantes. Malgré sa désapprobation, il choisit donc de ne pas sévir pour cette fois, mais qu'on ne les y reprenne pas ou il serait forcé d'intervenir.
Cette nouvelle s'intéresse à la suite des aventures de la bergeronnette que vous avez pu rencontrer dans la première nouvelle. Encore un peu, Zéphir, on y est presque. L'encouragement semblait avoir peu d'influence sur ma vieille monture. Depuis quelque temps, déjà, son pas avait ralenti. Comme à son habitude, quand je le poussais à bout, il laissait le vent jouer avec sa crinière. Un coup de tête à droite, un autre à gauche, et voilà qu'une bourrasque m'envoyait son crin ébène en pleine figure. « D'accord, d'accord !» Je descendais de la selle, vexée. Franchement, il aurait pu faire un effort pour arriver en ville. Ce soir, on dormirait à la Belle Étoile. À moins que... Au loin, une lumière brillait sur la rive du canal. J'avançais aux côtés de mon destrier, scrutant attentivement la lueur. Là, amarré sur les vestiges bétonnés du canal, attendait une petite péniche haute en couleur. Éclairée par un lampion bioluminescent, la scène semblait encore plus mystérieuse. La coque, peinte avec enthousiasme de motifs multicolores, jurait avec la rive. Je m'approchai doucement de l'embarcation. « Bonsoir », lançai-je de manière hésitante. Un fracas de métal me répondit, suivi de quelques jurons.
On fait une petite interruption, tout va bien, tranquille, il n'y a pas de problème. Tu retrouves ton texte ?
Oui.
Allez, on réenchaîne.
Une grande femme rousse à l'air bienveillant sortit de l'engin et se présenta. « Moi, c'est Sophie. Tu embarques ?» Son hospitalité spontanée était la bienvenue. Pour la remercier, je décidai de nettoyer les panneaux solaires de son bateau en lui parlant de mon voyage. « Le Villarbre, c'est un village dans un arbre ?» demandait Sophie. « Plutôt un village autour d'un cerisier. J'espérais arriver à temps pour assister à la cérémonie de la récolte. » À la lumière des sphères bioluminescentes, Sophie tenta. « Est-ce que ça te dérange si je viens avec toi pour voir ça ?» Je sursautais. Happé par le reflet, je ne l'avais pas vu parler. Mes joues prenaient une teinte écarlate, invisible heureusement à la lumière bleue. J'adorerais que tu viennes avec moi. Un haussement de sourcils accueillit ma remarque et un cri aigu résonna dans le fond de mon cerveau. Sophie rit, c'est réciproque. Le reste de la soirée fit écho à notre premier échange dans une harmonie grisante et une pointe d'électricité dans l'air. Le lendemain, je restais à bord, le cheval avançait plus aisément sur la rive. Et puis ça me donnait un peu plus de temps pour connaître Sophie. Comment avais-je vécu sans elle ? À ses côtés, tout semblait plus beau, plus coloré. Il y avait toujours cet arrière-goût électrique à nos conversations. à la fois gage d'affection et promesse qu'il s'agissait de plus que cela. Finalement, j'avais décidé de revenir à Compiègne, avec elle. L'avenir dans ce monde était incertain, risqué même, tout avait changé. Pourtant, à ses côtés, je n'avais plus rien à craindre.
Contexte de la prochaine histoire. Mel a un projet, celui de synthétiser une sorte d'engrais qui permet aux plantes de résister à la sécheresse. Mais il travaille beaucoup, du coup son ami Yuan lui propose d'aller à la fête de l'arbre fruitier pour qu'il se change les idées. Mel et Yuan se rendent à la fête. La fête de l'arbre fruitier est l'événement le plus important de la ville. Là-bas, on y trouve une bonne partie des habitants de Compiègne et même des communes voisines. L'ambiance est très festive, les gens sont très joyeux et il y a de la bonne musique et des stands de jeux de toutes sortes. Yuan et Mel arrivent à la soirée et Yuan propose alors à Mel de faire une compétition de tir à l'arc. Ils y jouaient souvent quand ils étaient tout petits, mais elle accepte sans brancher de toutes les façons, ils gagnaient à chaque fois. Arrivés au stand, ils prennent leurs arcs et trois flèches chacun. Avant le début, Yuan dit à Mel, « Hey mec, cette fois-ci je vais te battre, je ne suis plus aussi nul que quand j'étais gamin. » Et Mel répondit, « On verra bien. » Yuan ne perd pas de temps. Il lance les hostilités. Il prend son arc et ses flèches. Il place ses pieds perpendiculairement à la cible avec les pieds écartés à la largeur des épaules. Il se tient droit avec les épaules basses et tendues. Son corps est aligné avec la cible. Il imagine une ligne droite passant par son arc, son épaule et la cible. Il tire la corde de manière fluide et constante. Après avoir relâché la corde, il maintient sa position et suit la trajectoire de la flèche avec son regard. Et puis, pim ! Sa flèche touche la zone 8. Après ce tir, Mel est très surpris, mais garde son calme. Effectivement, Yuan a beaucoup progressé. « Ça t'embouche en quoi, hein, Mel ?» dit Yuan. Mais Mel, toujours avec calme, répondit « Je n'ai pas fini. » Ha ha ha, je sais, retorqua Yuan. Sans plus tarder, il réajuste son enchaînement et touche successivement les zones 7 et 8. Voilà, j'ai terminé. Un score de 23, c'est pas mal, n'est-ce pas? Et dit qu'autrefois, mon maximum était 14. À toi maintenant, Mel, dit Yuan. Avec un air très sérieux, Mel se met en position et très concentré, il tire la flèche. La flèche décolle comme un oiseau qui prend son envol et bam, il touche la zone X qui correspond au meilleur coup. Yuan est à la fois dégoûté et extasié. Mel est incroyable. Dans ses deux derniers coups, il met moins d'application et touche respectivement les zones 7 et 9. Suffisant pour battre Yuan. Bravo Mel, toujours aussi fort à ce que je vois, dit Yuan. Oui, depuis que nous sommes tout petits, je n'ai vraiment jamais arrêté de jouer, lui sortit Mel.
Merci à vous. Merci Brian pour ce dernier texte. Merci donc Ahmed Bouzidi, Juliette Césari, Laura Glodex, Victor Guérin, Margot Lenné, Brian Migue donc et Uxy pour ses lectures. Donc vous nous avez écrit des nouvelles dans le cadre du groupe Can Alternatif. Le groupe Can Alternatif, eh bien, un de ses enjeux aussi, c'est d'imaginer des alternatives au méga projet de Canal Seine Nord Europe qui passe à Compiègne. Vous avez réalisé ça dans le cadre du projet d'activité pédagogique à l'intersemestre Solarpunk à l'UTC. Vous avez été encadré, aidé par Mathis Leroy et Vincent Robin, ainsi que Alexandre Brandy et Anne Kervan qui sont avec moi en studio et les autres animateurs, animatrices qui étaient avec nous. Eh bien, on retrouvera tout ou partie de ces textes, peut-être des versions plus courtes, peut-être des plus longues, sur framablog.org. dans quelques semaines. Et puis, eh bien, si tout va bien, dans librairie d'ici quelques mois. Eh bien, je propose que l'on se fasse une petite pause, que l'on se retrouve vers 11h30, 11h35, avec le quatrième groupe de la matinée. Il y aura 9 groupes en tout. Hein. Donc le quatrième groupe sera le groupe Œuvre d'art, qui a été particulièrement encadré par Alexandre.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci à vous. Passez une bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.